À Bamako et à Dakar, 22h à Yaoundé et à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Au Cameroun, les autorités intensifient leurs opérations contre Boko Haram. Nous serons au Niger pour notre dossier.
Personne ne pouvait croire un seul instant qu'un Nigérien pouvait se rendre dans un pays X importer un être humain.
Un trafic de nourrissons aurait été démantelé à Niamey. Reportage d'Abdoul Razak Idrissa à suivre. Rubrique éducation au Mali, les examens de fin d'année auraient été émaillés de fraudes massives. Enfin, reportage santé, nous verrons comment le handicap des enfants est pris en charge au Sénégal. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Au Nigeria, Abuja, la capitale, a de nouveau été frappée par un attentat à la bombe qui a fait 21 morts et 17 blessés. La bombe a explosé dans un centre commercial bondé une heure avant le début du match Nigeria-Argentine. Le site qui a été bouclé par la police et l'armée offrait un spectacle de désolation avec des débris de voitures et des restes de corps éparpillés sur le sol. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Boko Haram a mené déjà deux attaques meurtrières récentes dans la capitale nigériane. Au Mali, l'arrestation du terroriste présumé Mohamed Ali Hag Wadesone, principal instigateur de l'évasion du 16 juin dans la prison centrale de Bamako. Les forces militaires maliennes en alerte depuis cette date ont mis la main sur le fugitif dans le quartier Assi Amdalaï. Il a été aussitôt conduit au camp de la gendarmerie de Bamako. Le vote pour les législatives libyennes aujourd'hui. Le taux de participation a été extrêmement faible. Le dépouillement a commencé ce soir même, juste après la fermeture des bureaux de vote. Un membre de la haute commission électorale a déclaré à l'agence France-Presse que les premiers résultats devraient être annoncés à partir de vendredi ou samedi. Sur 1,5 million d'électeurs inscrits, seuls quelques 400 000 ont voté, soit un taux de participation de moins de 27%. Le scrutin a été marqué par des violences à Benghazi, dans l'Est, où trois soldats ont été tués dans des combats avec des islamistes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a rejeté la formation d'un nouveau gouvernement de salut national pour aider son pays à faire face à la progression des militants islamistes sunnites. Michel Joseph.
Pour M. Maliki, un tel gouvernement serait inconstitutionnel et contraire aux résultats des législatives du 30 avril, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. Son bloc est arrivé en tête à ces élections. Le secrétaire d'État américain John Kerry et le président Barack Obama n'ont cessé de l'exhorter à former un gouvernement inclusif, c'est-à-dire comprenant des représentants des minorités sunnites et kurdes. Ainsi, les profondes divergences qui minaient l'Irak bien avant l'offensive djihadiste restent entières. Malgré tout, les premiers éléments de quelques 300 conseillers militaires américains sont déjà à pied d'œuvre en Irak. Les États-Unis, par ailleurs, effectuent entre 30 et 35 missions de reconnaissance par jour au-dessus de l'Irak. Signalons que les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant et ceux du front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, ont décidé de fusionner à Boukamal, principale localité à la frontière entre la Syrie et l'Irak.
Le secrétaire d'État américain a déclaré ce mercredi que le président russe doit prouver son engagement total pour la paix dans l'est de l'Ukraine. Il faut des actes et non des paroles, a dit John Kerry à Bruxelles lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Auparavant, le chef de la diplomatie ukrainienne, Pavlo Klimkin, avait réagi positivement à la décision de la Chambre haute du Parlement russe qui a révoqué l'autorisation d'envoyer des troupes russes en Ukraine. Vladimir Poutine en avait fait la demande en début de semaine. Le nouvel ambassadeur américain en Chine, Max Baucus, qualifie de menace grave à la sécurité nationale des États-Unis le cyberespionnage commercial mené par Pékin. S'adressant à un groupe d'entrepreneurs, le diplomate américain a reconnu l'existence de désaccords sérieux sur la question entre les États-Unis et la Chine. Il y a un mois, Washington avait accusé 5 officiers militaires chinois d'espionnage contre des entreprises américaines. Vous suivez la Voix de l'Amérique. Félicitations au Nigeria qui est qualifié pour le 8e de finale. Vous retrouvez maintenant Claire Morin-Gibourg pour la suite de Sahel+.
Retour à Sahel Plus et nous ouvrons avec le Cameroun. Les autorités camerounaises intensifient leurs opérations contre les infiltrations des militants du groupe islamiste nigérian Boko Haram dans l'extrême nord de leur pays. Un responsable local de la gendarmerie, que cite l'AFP, a fait état de 8 militants présumés abattus près de la frontière nigériane. En outre, plusieurs personnes ont été interpellées dans la ville de Maroua dans le cadre de ces efforts. Timothée Donangmaï a joint sur place Amadou Amidou, le maire du premier arrondissement de Maroua.
Je ne peux pas vous dire avec affirmation que effectivement c'est les membres de la secte Boko Haram, mais ce que je sais, le gouvernement est en train d'appuyer des dispositions draconiennes, n'est-ce pas, pour lutter contre cette secte Boko Haram qui terrorise pratiquement la psychose, n'est-ce pas, de nos populations. C'est la raison pour laquelle il y a eu une descente des forces de l'ordre, n'est-ce pas, au niveau du centre artisanat et que les interpellations ont eu lieu. Et je crois que nous maîtrisons parfaitement la situation.
Est-ce qu'on sait combien de personnes ont été interpellées lors de l'opération?
C'est vrai qu'il y a eu environ 40 interpellations. Mais vous savez, quand il y a quand même des rafles dans le marché, on ne sait pas effectivement est-ce que c'est la cible, est-ce que c'est la personne recherchée véritablement. Donc il y a eu 40 environ interpellations. Et à ce jour, je ne sais pas combien de personnes sont encore entre les mains des forces de sécurité. Mais néanmoins, il y a eu certains qu'on a eu quand même à relâcher après enquête.
Maroua n'est pas très loin du Nigeria. Qu'est-ce que cela représente comme défi en matière de sécurité pour votre ville?
Vous savez, on n'avait pas l'habitude de vivre véritablement cet événement. De plus en plus, la population elle est consciente, n'est-ce pas, de l'enjeu. Elle est consciente de l'action du gouvernement. Et j'avoue très sincèrement que la population, elle coopère aujourd'hui parfaitement, n'est-ce pas, avec les actions du gouvernement. Parce qu'au départ, elle était très réticente, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, avec les mesures que le gouvernement a prises, les différentes réunions que nous avons eues, je crois qu'aujourd'hui, la population a compris l'enjeu et elle a compris véritablement son implication. Et tout le monde veille à ce que cette situation soit réglée au plus vite.
On sait que les attaques de Boko Haram poussent beaucoup d'habitants du Nigeria à fuir, notamment vers le Cameroun. Est-ce que vous en recevez à Maroua?
Je ne peux pas à ce jour vous dire si nous en recevons parce que nous sommes à plus de 120 km et que les populations et même les forces de l'ordre sont en train de faire un travail très formidable que nous apprécions d'ailleurs. Et aussi, il y a des barricades un peu partout, des contrôles. On n'admet pas, n'est-ce pas, aux étrangers de pénétrer très facilement dans la ville de Maroua. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire s'il y a eu immigration, n'est-ce pas, dans la ville de Maroua. Je ne suis pas vraiment bien placé pour vous le dire, mais je sais que le gouvernement et les forces de l'ordre maintiennent la situation.
Le maire Amadou Amidou du premier arrondissement de Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Au Niger, la police est sur les traces d'un réseau de trafic de bébés. Une vingtaine de personnes auraient été arrêtées. On mentionne même des épouses de personnalités du pouvoir. L'affaire a été révélée par un journal à Niamey. Sur place, la correspondance de Abdoul Razak Idrissa.
Parmi la vingtaine de personnes interpellées, il y a l'une des épouses du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, mais également une épouse du ministre d'État chargé de l'agriculture, Abdoul Abo. La police procède à leur interrogatoire suite à une affaire de trafic de bébés révélée par un journal et dont le procureur de la République s'est saisi. Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement.
Il y a à peu près 9 mois de cela, nous avons reçu une information selon laquelle une personne qui n'a aucune responsabilité au niveau de l'État est impliquée dans un trafic de nourrissons venant du Nigeria. Donc quand nous avons eu cette information, nous avons continué à investiguer pour savoir s'il est seul. Alors, nous avons compris qu'il s'agit d'une toile qui s'étend du Niger au Nigeria, au Bénin, avec des tentacules jusqu'au Burkina Faso. Alors, nous avons pondu un article pour alerter l'opinion sur ce trafic néfaste qui se déroule en territoire nigérien, dont plusieurs personnes. Après, nous avons compris qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, et même des personnalités au plus haut sommet de l'État. C'est ce qui nous a inquiétés. Alors, nous avons livré cette information avec des preuves. Nous avons nos preuves, puisque nous nous sommes déplacés dans certains pays pour voir comment se passe ce trafic-là.
Pour l'instant, ni la police, encore moins le bureau du procureur n'est sorti pour apporter davantage d'informations sur cette scabreuse affaire, ce que regrettent les associations de promotion et de défense des droits humains. Mustapha Kadi est le président de la section nigérienne de l'ONG internationale Réagir dans le monde.
Il va falloir très rapidement d'abord présenter la situation, informer les Nigériens de ce qui s'est passé. Dans un pays où on a mis en place une commission nationale de lutte contre la traite, de lutte contre l'esclavage, personne ne pouvait croire un seul instant qu'un Nigérien pouvait se rendre dans un pays X importer un être humain.
Cette affaire intervient dans un climat très tendu entre les autorités et le président du Parlement qui a quitté la majorité au pouvoir voilà bientôt une année. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Au Mali, les examens scolaires de fin d'année, le diplôme d'études fondamentales, le DEF et le baccalauréat ont été émaillés de fraudes massives. Des fraudes qui surviennent cependant après un renouvellement de la gestion de l'appareil éducatif, accusé de la mauvaise organisation des examens de fin d'année. Au Parlement, le ministre de l'Éducation nationale a été interpellé par le député Brahima Beridogo sur cette débâcle des examens de fin d'année au Mali. Plus d'explications avec notre correspondant Kassim Traoré.
Pour cette séance d'interpellation, le député Brahima Beridogo de l'opposition avait des questions à poser au ministre de l'Éducation nationale.
Au vu de la cacophonie sans précédent suite à la fuite des sujets d'examen du DEF et du baccalauréat, l'opération de renouvellement opéré a-t-elle été menée avec le discernement et le réel souci de compétence et d'efficacité qui aurait dû y présider? Si oui, qu'est-ce qui explique cette fuite massive? Les diplômes délivrés dans ces conditions sont-ils crédibles? Comment compte Madame le ministre gérer ce problème et assainir de manière générale son département?
Les fuites de sujets et les fraudes lors des examens ne datent pas d'aujourd'hui. C'est ce que pense le ministre de l'Éducation nationale, Jacqueline Marie Nana Togola.
La fuite des sujets du DEF 2014 est celle qu'on observe depuis 20 ans au Mali. Elle n'est pas nouvelle à ce que je sache. Si cette année, il y a eu tout ce bruit, tous les examens, c'est parce qu'au département, nous avons infiltré des milieux, ratissé des cybercafés et trouvé parmi des dizaines de faux sujets qui font aussi l'objet d'un commerce juteux en période d'examen.
La patronne de l'éducation dit avoir engagé une lutte sans merci contre toutes sortes de fraudes. Elle a présenté aux élus de la nation les fruits de son premier combat.
Ceci est un ordinateur saisi sur les fraudeurs que vous pourrez avoir à disposition, honorable Beridogo. Et j'ai sur moi une longue liste d'élèves qui avaient déjà passé au DEF et au baccalauréat avant la programmation des résultats. Et nous avons retrouvé la somme de 7 millions déjà qui a été collectée avec les parents d'enfants, avec tout ce qui était intéressé. Donc, 350 000 francs par élève.
Les députés de Kadjolo pensent que le renouvellement à grande échelle opéré par le ministre de l'Éducation, des premiers responsables de la gestion de l'appareil éducatif, n'est pas pour rien. Birima Beridogo.
Le détail, c'est 3 000 francs. Si vous voulez un sujet, vous payez 3 000 francs, on vous l'envoie. Et sur votre téléphone, et ce numéro, on vous l'a donné, madame le ministre. Vous dites qu'il n'y a pas eu de fuite. Il y a bel et bien fuite au niveau du bac. Des centres ont eu des retards de plus d'une demi-journée. Des candidats ont commencé à la lueur des bougies. Les lampes à pile, ce qu'on appelle communément les torches. Les écrans de téléphone qui étaient interdits. On a tout oublié de mettre les téléphones pour composer. Et nous avons vu sur le terrain, les sujets ont circulé d'une académie, des académies au centre d'examen, en dehors des enveloppes.
À la fin de cette interpellation, les députés veulent mettre en place une commission d'enquête sur les mots qui minent l'école malienne, car sa gestion doit sortir des considérations politiques. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra change l'Afrique à notre place.
Nous terminons l'émission par un reportage santé à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée il y a quelques jours. Notre correspondante Diena Bassedouba s'est intéressée à la vie et à la prise en charge des enfants handicapés au Sénégal. Reportage au centre Aminata Mbaye, un centre spécialisé dans l'éducation des enfants handicapés.
La joie que mon sourire vous procure.
Samoulaye est un enfant déficient mental. Il est âgé de 16 ans et il est pensionnaire du centre spécialisé Aminata Mbaye. Saliou maîtrise le français et la journée de l'enfant africain, voilà une belle occasion pour lui de sensibiliser sur le sort des enfants vivant avec un handicap.
Votre bonheur n'est pas handicapé ni déficient. Même si nous sommes différents, nous sommes tous des enfants.
Juste à côté de son camarade, Alundia s'essaie au coloriage. Il ne tient pas bien ses crayons, mais veut dessiner un papillon.
Je fais le colorier pour faire le papillon, oui. Okay. Je fais le papillon et le colorier aussi.
Okay. Plus d'une vingtaine d'enfants déficients mentaux sont pris en charge dans ce centre. Et des difficultés majeures, il n'en manque pas. Pour nous en parler, le directeur du centre, Claude Sarr.
D'abord, l'accès au centre. L'accès au centre demande quand même des moyens au niveau des familles pour que les familles puissent avoir les moyens de les amener. Par exemple, tout le monde ne peut pas payer, par exemple, le bus de l'école. C'est le transport. Et si l'enfant ne peut pas venir, il ne peut pas suivre. Surtout ceux qui habitent très loin, il y en a qui habitent en banlieue. Très loin même. L'autre difficulté, c'est les moyens, la scolarité. Bon, c'est 20 000 francs, vous me direz que c'est rien. Mais il y a beaucoup de parents qui ne sont pas en mesure de payer. Le soutien de l'État pour le moment, c'est théorique. Nous avons fait beaucoup de démarches, de plaidoyer, d'envoyer de la correspondance et tout. Mais jusqu'à présent, c'est lettre morte, disons. Parce que là, le terrain sur lequel est bâti l'établissement, c'était un bail de l'État. Il y a 5-6 ans, l'État nous a envoyé quand même 4 enseignants. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre. L'État ne réagit pas et tout. Et nous avons d'énormes difficultés parce que nos enseignants, surtout les éducatrices, nous en perdons régulièrement parce que simplement, ils sont très mal payés.
Le centre médico-psycho-pédagogique Aminata Mbaye accueille des enfants déficients mentaux légers ou moyens en vue d'une intégration dans la société. Des centres comme cela, il n'en existe que 3 à Dakar, ce qui fait que beaucoup d'enfants vivant avec un handicap n'ont pas accès à la scolarisation. Diena Bassedouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Michael Dubinski. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Cheikh Tidiane Seck et son titre Mougoutari. Cheikh Tidiane Seck qui sera en concert le 18 juillet dans le cadre des festivals Détour du Monde à Chanac en France. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.